Eh bien, bonjour, bon jeudi à tous. Dernière journée du mois de juin et dernière émission de la semaine, puisque nous ferons relâche demain en ce 1er juillet, fête du Canada et journée nationale du déménagement. Alors, bienvenue à l'émission Aime l'été, une autre occasion de célébrer la saison estivale, la saison des vacances, celle des festivals et de toutes ces activités qui nous permettent de passer des moments inoubliables. Au cours de la prochaine heure, soyez au rendez-vous. On met le cap sur une autre émission de Aime l'été. Et dans notre boîte à pique-nique aujourd'hui, on vous propose une virée électrique à la Cité de l'énergie de Trois-Rivières. On vous parle d'une expérience multisensorielle avec le spectacle immersif Camille, le récit. On rencontre un comédien et auteur de théâtre documentaire qui s'intéresse aux vieux et aux enjeux du vieillissement. Mais dans les prochaines minutes, on met le cap sur le Festival en chanson de Petite-Vallée. Ici Chantal Lavoie, voici Aime l'été.
Samedi soir au dépanneur du coin, Casey avait enfilé son petit sourire en coin. Des Marlboro, un petit loto, un magazine à potins. J'ai dit non, mais dis-moi donc, ça va-tu bien? Il a dit, ouais, 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 moi ça va bien. J'ai dit, ouais, 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 moi ça va bien. Mais quand le Casey rentre chez lui, les nouvelles sont pas bien belles. Tout le G-Rock a chassé les arc-en-ciel. Y'a le loyer qui est pas payé, sa blonde qui l'attend dans l'entrée. Puis les enfants qui continuent à rêver. Et que ça va bien. Ça va bien, ouais ça va bien, toi ça va bien, lui ça va bien, moi ça va bien, toi ça va bien, tout le monde ça va bien. Un jour j'ai croisé Alain, mon voisin, il avait l'air d'avoir forcé un peu sur le vin. C'était un moyen sans dessin, mais mon voisin, moi je l'aime bien. Fait que j'ai dit salut, hey, ça va-tu bien? Il a dit ouais, ouais, moi ça va bien. J'ai dit, ouais, 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 moi ça va bien. Mais quand il referme sa porte et qu'il réouvre sa bouteille pour ne s'arrêter qu'au lever du soleil, c'est pour se changer les idées noires, pour faire un trou dans sa mémoire, pour oublier que tout s'appelle, il vient la boire. J'ouvre la télé, piste un politicien. Un beau discours à la bouche, il brandit son poing à travers les questions sur l'étalement urbain. Un journaliste demande, est-ce que ça va bien? Il a dit, oui, 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 tout va bien. Oui, moi je vous le dis que tout va bien. Mais si tu sors dans les rues et que tu t'arrêtes un instant, tu verras que les manifestants sont pas bien contents. Des problèmes économiques, du réchauffement climatique, puis des frais d'éducation publique. Et que ça va bien, et que ça va bien. Ça va bien, tout ça va bien, lui ça va bien, moi ça va bien, tout ça va bien, tout le monde ça va bien, et ça va bien, et ça va bien. Moi ça va bien, tout ça va bien, lui ça va bien, toujours le même refrain. Je me suis croisé dans le miroir de la salle de bain. Regarde-moi sur les beaux yeux, puis en plus j'ai l'air fin. J'ai pas maigri certain, puis j'ai l'air fatigué un brin. Mais à matin, moi je vous le dis que ça va bien. Mais tu sais, ouais, ouais, tu sais, ça va bien. Non, non, mais ouais, ouais, tu sais, ça va bien. J'passe mes grandes soirées en bedaine à vous faire mes rengaines à deux scènes. Façon, à personne va les écouter, j'passerai pas devant ta TV. J'suis pas radio, j'suis pas dans les journaux. J'fais même pas de show. Et que ça va bien. Et que ça va bien. Ça va bien, tout ça va bien, lui ça va bien, moi ça va bien, toi ça va bien, tout le monde ça va bien, hey, ça va bien, hey, ça va bien, hey, moi ça va bien, tout ça va bien, lui ça va bien, tout le monde ça va bien, hey, ça va bien, hey, ça va bien, moi ça va bien, tout ça va bien, lui ça va bien, moi ça va bien, toi ça va bien, tout le monde ça va bien, hey, ça va bien. Toujours le même refrain.
Noé Bélanger, Anthony Martin, Benoît Francoeur, William Morris et Félix Côté qui se sont fait remarquer l'an dernier avec leur pièce « Ça va bien », la jeune formation gaspésienne Irène qui lançait le 5 avril dernier à Gaspé son premier album « Quand on sera une saison ». Ils sont en spectacle à 14h30 cet après-midi au Festival en chanson de Petite-Vallée et c'est justement de ce festival que nous allons parler à l'instant en compagnie d'Alain Côté, directeur général du Festival en chanson de Petite-Vallée. Bonjour!
Bonjour, c'est Alan, mon nom, c'est pas grave.
Ah, oh, Alan, c'est bien
Alan
ça.
Alan Côté.
Ah, d'accord, parce qu'effectivement, on se questionnait parce que on avait Alan, puis à la fois on avait Alain, on ne le savait plus. Bon,
Alain
d'accord. Parfait, Alan. Eh bien, Alan, bonjour. Est-ce que ça va bien?
Ça finit plus de bien aller, comme on dit.
Bon, eh bien, le festival, oui, tant mieux, hein, parce que là, c'est effectivement, c'est là le festival.
C'est là.
Bon, alors le
en pré-ouverture hier soir, avec le groupe Vent du Nord, et puis c'est une soirée de danse traditionnelle calée. Là, ça a viré de bord d'un bord puis de l'autre. Ça a bien été au bout. Puis là, ben, c'est vraiment le début du festival aujourd'hui avec Irène, comme vous venez de le dire. Et puis la Petite École de la Chanson, qui est une chorale de 210 enfants qui viennent de 30, au-delà d'une trentaine d'écoles de la Gaspésie.
Ah, ça, c'est très impressionnant à écouter. Hein. Ouais. C'est vraiment...
Ils vont chanter, Paul Pichet, Émile Bilodeau,
C'est tout un programme, ça. Eh bien, le Festival en chanson de Petite-Vallée, qui célèbre jusqu'au 9 juillet la chanson francophone, hein, à travers une programmation très variée, éclectique, reflet, bien sûr, de la pluralité et de la richesse de la scène musicale québécoise. Vous n'êtes pas un festival comme les autres, Alan.
Ben, on est chez nous.
Ben, dans le sens que vous faites rayonner les artistes dans la francophonie tout entière et vous les accompagnez aussi, vous nous les faites connaître. Il y a beaucoup... Vous êtes une pépinière de talent.
Ben, effectivement, ça fait partie de notre ADN, là, notre mission de mettre en valeur les nouveaux artistes. Et puis, on a la prétention même de changer des vies, imaginez-vous. Fait que, et puis, par beaucoup de structures d'accompagnement tout au long de l'année. Donc, il y a ce travail-là. Et puis, c'est une grande fête de la chanson intergénérationnelle aussi, comme on disait, qui commence avec des enfants, ben, qui a des artistes de grand renom comme les Zachary, les Paul Pichet, Paul Darèche et compagnie.
C'est ça, les artistes plus établis, mais vraiment tous les artistes émergents. En fait, les artistes établis qu'on appelle les passeurs.
Mais il y a des passeurs, puis il y a aussi comme je viens de le dire, le Zachary. Donc, il y a une programmation d'artistes de grands spectacles avec Charles Barbe, entre autres, pour une histoire d'un soir et tout ça. Mais oui, il y a des passeurs qui sont donc les grands frères et grandes sœurs. Cette année, c'est deux garçons, Paul Pichet et Émile Bilodeau, des nouveaux artistes qu'on veut mettre qu'on veut faire émerger, en fait, qu'on veut mettre en évidence. Et donc, ça, ça s'appelle Les Escales en chanson de Petite-Vallée et ça dure un mois. Ça a commencé près de Joliette, à Notre-Dame-des-Prairies. Au début juin, ils ont fait un show là-bas, un show francophonie de Montréal. Après, à Québec, ils ont eu une autre période de 8 jours de résidence. Ils ont fait 2 spectacles là-bas. Et puis, ils sont ici à Petite-Vallée pour toute la semaine, en fait, pour les 10 jours du festival. Et puis, ils font 3 représentations pendant leur passage.
Okay.
Et ils s'en viennent, d'ailleurs... manger dans quelques minutes avec Paul Pichet et Émile Bilodeau. Une rencontre avec les passeurs, oui.
Oh là là. Ben c'est ça, parce que quand on pense à un passeur, ben c'est l'importance de la transmission, c'est ça, au fond.
Et effectivement, c'est tout à fait ça. C'est la transmission, c'est partager les bons coups, les mauvais, et puis c'est de montrer la trail, comme on dit là, quand on parle de chasse. Montrer à trail aux autres, puis dire on est passé par là, faire ça, attention à ça, ou aller là. Et parfois, ça prend des discussions, prendre des tangentes complètement autres que l'industrie. Ça va aller sur la création, ça va aller sur d'autres aspects.
Alors, c'est ça, parce que tout vient du cœur, là, au Festival en chanson de Petite-Vallée.
Effectivement, tout vient du cœur, tout passe par le cœur. On est vraiment une gang de crinqués, qui dans un petit village de 135 habitants, accueille donc des milliers de festivaliers. Puis,
quand même pas moins de 20 000 festivaliers pour un village de 140 habitants à Petite-Vallée. Là.
Mais
c'est
bon,
quand même quelque chose.
Sur deux villages avec un gros camping. Puis on loue tout ce qu'il y a à louer d'hébergement privé, public. On ratisse large, comme. Puis les grands spectacles mais amènent des populations locales qui retournent dormir à la maison, bien sûr, comme partout. Mais on a beaucoup, notre clientèle est à plus de 80% d'une clientèle touristique, c'est ça.
C'est ça. C'est la 39e saison, quand même.
Oui, 39e édition cette année. En fait, on en serait à 40 s'il n'y avait pas eu l'année de pandémie où on n'a pas eu. On n'a pas eu de festival.
Mais,
donc, ça va être le 40e l'année prochaine. On est là-dedans en train de réfléchir, puis on a un éventuel projet de construction qui s'en vient.
Ben, c'est ça. Vous avez quand même dévoilé l'architecture à venir de ce fameux théâtre, enfin, parce que, bon, on sait qu'il y a eu cet incendie en 2017, là, l'incendie du théâtre de la Vieille Forge, hein, et vous avez, en fait, tous les artistes se sont mobilisés, là, pour recueillir des fonds. Il y a eu des subventions, évidemment, qui vous ont été attribuées. Alors là, vraiment, vous allez être prêt à construire. Mais là, on attend ça pour 2024.
Oui, c'est ça. Pas pour le festival, par exemple, on l'attend plus pour l'automne 24. C'est ça les plans pour là. C'est sûr qu'on est dans un contexte au niveau de la construction, comme vous le savez, qui est pas évident.
Mmh, c'est ça aussi, hein.
Mmh. Avec la fluctuation des coûts de tout.
Les matériaux.
Il y a l'inflation qui monte. On est curieux. On est à l'affût de comment l'économie va se passer, puis comment tout ça. Aussi la main-d'œuvre, qui est un enjeu crucial dans le domaine de la construction. Mais dans tous les domaines, j'aurais dit, oui.
Oui, c'est ça. Et puis, d'autant plus que c'est vraiment un beau théâtre, là. Enfin, ça s'annonce pour être un très, très beau théâtre, une architecture vraiment qui s'insère de façon très organique dans le paysage. Écoutez, vous êtes au bord de la mer, ça peut pas être n'importe quoi.
Non, effectivement. On est très contents du concept qui est là. Mais le défi, maintenant, il faut réussir à le réaliser. Compte tenu de toutes ces inflations-là, fluctuations de coûts. Hein.
Effectivement. Donc, on a parlé des escales en chanson. Évidemment, il y aura plein d'artistes connus, là, bien établis. Patrice Michaud, Catherine Major, Clopel Gag, Philippe Braque. C'est pas ça que je veux dire. J'étais dans le passé. C'est parce qu'enfin, je voulais dire qu'on vous avait contribué à faire connaître ces artistes-là.
Moi,
je m'excuse. Se sont portés ailleurs. Mais non, c'est ça. Parlez-moi de la programmation. Là, il y a la déferlante autochtone. Ce sont des beaux concepts aussi parce que là, vraiment, c'est vraiment une vitrine musicale aussi pour des artistes et groupes phares issus des Premières Nations.
Exactement. Donc, je travaille en complicité avec les Premières Nations depuis plusieurs années déjà. Et puis, c'est un nouveau projet que j'ai mis de l'avant là, de concert avec le studio et la compagnie de disques Makoucham à Malio-Ténab.
Mm-hmm.
Puis, on a travaillé ce concept-là de déferlante autochtone. Et puis, on a engagé Denis Bouchard, le comédien, pour faire la mise en scène de ce spectacle qui met en scène justement cinq groupes et artistes autochtones. Le groupe Matten, le groupe Ninan, Scott Pien Picard, qui commence à être une vedette montante qui avait gagné le talent bleu. Là. Et puis, on a aussi Brian André et Pascal Ottawa.
Mm-hmm.
Donc, des Atikamekw et des Innu rassemblés sur une même scène. Et puis, ça va soigner. Donc, des artistes très enracinés dans leur musique, dans la musique.
Et dans leur culture et tout.
Des Émiles de Cachetine, mais qui ont aussi la modernité, puis qui ont une approche. Il y en a un groupe là-dedans, Ninan, eux, ils sont de Shefferville. Donc, c'est intéressant de voir des gens qui nous arrivent de loin comme
c'est ça,
qu'on va accueillir les beaux joueurs.
En tout cas, on aurait pu en parler longuement parce que vraiment, c'est un festival à connaître. Et puis, ceux qui ne sont jamais allés là-bas, je pense que ça vaut la peine. Puis, retrouver aussi les quatre charbonniers. Là. En fait, ça, c'est une grande fête là, autour de la chanson traditionnelle. Alan Côté, ça a été un plaisir de vous accueillir. Et puis, écoutez, on ira, si ce n'est pas cette année, ce sera une autre année. Mais en tout cas, chose certaine, vraiment, le festival en chanson de Petite-Vallée, c'est un incontournable pour toute la francophonie et nous faire découvrir des artistes extraordinaires.
Merci beaucoup.
Alors, c'est ça. Puis, il y a plein de choses. Il faut aller sur votre site, là. C'est très important parce qu'il y a aussi des rabais hein, pour les 17 ans et moins. Alors, il y a plein de choses qu'il faut savoir, mais je pense que je laisse aux gens le soin d'aller découvrir davantage.
C'est bien. Merci beaucoup.
Un gros merci et puis bon festival. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
S'étrangler le corps, s'effondre encore. s'annonce. Imaginez le pire à 20 qu'il gronde encore. Encore. Mêlée à un cauchemar que je dessine. La raison s'en va et la peur arrive encore. Dis-moi que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras et qu'elle vienne s'emparer de moi.
Caroline Savoie, autrice, compositrice, interprète acadienne, au parcours s'échelonnant sur une décennie bien garnie, plus de 500 spectacles ici et aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Elle a donné des spectacles aux côtés de Daniel Lavoie, Francis Cabrel, Paul Piché, Les Sœurs Boulay ou encore Émile Bilodeau. Elle s'est fait connaître aussi à The Voice en France en 2014, victoire au Festival international de la chanson de Granby en 2015 et parution de deux albums, un en 2016, l'autre en 2019. Il y a un troisième aussi en préparation. Caroline Savoie qui sera le 8 juillet au Festival en chanson de Petite-Vallée dont on vient de parler. Et bien donc, c'était la pièce 1001. Alors, justement, je fais le lien, oui. 1001 avec Caroline Savoie, mais 1001 font 1000 avec François Grisé. Bonjour.
Bonjour.
Alors oui, donc, vous êtes acteur, artiste multidisciplinaire. C'est vous qui avez parti le mouvement Habitat. Mm-hmm. Et donc, c'est de ça qu'on va parler surtout, parce que aussi, vous êtes l'auteur de la pièce Tout inclus, mais on y reviendra éventuellement parce que c'est sûr qu'il y a des représentations qui s'en viennent à partir de l'automne, l'hiver prochain. Là, on aura l'occasion de revoir cette pièce très intéressante, une pièce documentaire. J'ai assisté à vos forums l'automne dernier, à ces forums de discussion que vous avez amorcés sur le vieillissement.
Ouais.
C'est un sujet vraiment essentiel et je pense que là, il faut... on a fait du déni pendant longtemps, là.
On en fait encore.
Mais vraiment, alors qu'est-ce qui a été le déclencheur? D'abord, ce sont vos parents qui...
Exactement. Et pour la pièce et pour le mouvement Habitat, qui est une suite d'événements qui m'ont amené à créer ce mouvement-là. Comme vous le disiez, le déclencheur, c'est que mes parents sont déménagés dans une résidence privée pour aînés, comme plein de Québécois,
qui sont
entourés de plein d'enfants qui prennent soin de leurs parents, puis qui se disent « Ah, ben coudonc, ça doit être une solution. » Et c'est une très bonne solution. Hein. Je pense que les questions que je pose autour des RPA ont ouvert sur beaucoup plus de questions, mais à ce moment-là, mes parents, en tout cas, l'ont très mal vécu. On s'est demandé pourquoi ils le vivaient si mal entre nous. Puis moi, j'ai voulu comprendre le malaise que je vivais devant la solution qu'on avait choisie, devant le fait qu'on ait décidé individuellement, mais aussi collectivement, de créer ces endroits-là. Encore une fois, qui ne sont pas des endroits démoniaques ou des endroits...
Mais pas du tout. Ça peut être même très bien pour certaines personnes.
Absolument. Puis, tu sais, il y a une amie à moi qui vit en ce moment une sorte de renaissance en déménageant dans une RPA parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était très isolée, très seule. En tout cas, tout ça pour dire, dans le contexte de mes parents, ça a été le début d'une longue réflexion qui m'a mené à écrire une pièce dont on reparlera un petit peu plus tard. Puis quand j'ai rencontré le public pour la première fois avec la pièce, je me suis confronté de par la nature documentaire de la pièce. On rencontre le public après et les gens me disaient Oui, mais là, François, qu'est-ce qu'on va faire après? C'est quoi les autres options si on veut pas ça? Puis les gens commençaient à me dire, oui, mais tu connais tel projet dans les bassins du Nord ou en Trois-Rivières? Ou on s'est rendu compte, à force de rencontrer le public et avec le public, qu'il fallait parler de ça et qu'il fallait inclure les gens dans la réflexion et qu'il fallait inclure les gens et leur poser la question de quoi vous avez envie, vous.
Pour plus tard.
Absolument.
Parce que, oui, vous parliez de certains projets qui ont été mis en place. Bon, des projets qui ont mis beaucoup d'années à émerger. Oui. On parle de coopératives pour aînés.
La moyenne, notamment. C'est une dizaine d'années pour faire naître un projet.
Imaginez.
Ouais.
Alors là, finalement, on est mal barré actuellement parce que là, c'est sûr que, on se voit vieillir. On se dit, est-ce qu'on aura le temps de changer les choses? Parce qu'effectivement, oui, il y a des promoteurs qui ont les sous pour construire des RPA, mm-hmm. sont capables de bâtir ça assez rapidement.
Ouais.
Mais les autres projets, les autres solutions, les choix qui peuvent être différents, tu sais, on se dit, il y a des gens qui vont dire, bon, moi, je vais m'organiser avec mes amis, on va se construire un mm-hmm. genre de petit gîte à nous-mêmes, juste pour nous.
Oui, bien ça, c'est assez romantique comme vision.
Oui,
c'est la raison pour laquelle il y a eu le mouvement, puis les événements publics, là, que vous avez vécu participant. Puis à l'intérieur des événements publics, c'est de ça qu'on s'est rendu compte. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'embûches, mais il y a aussi beaucoup d'idées, beaucoup de réponses à donner à ces questions très simples. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Et ça fait naître la question pour moi, comment voulons-nous habiter notre mm-hmm. vieillesse, qui est vraiment un geste actif. C'est pas qu'on se questionne sur l'habitat, mais on se questionne sur ce qu'on peut faire, ce qui se fait déjà, hein, parce que ça, c'est l'autre constat qu'on a fait, nous, c'est que ce qui se fait déjà, même, on le sait pas. On sait même pas que les solutions existent, parce que, et c'est comme ça que vous avez commencé l'entrevue aujourd'hui, on parle pas du vieillissement en général, on est dans le complet déni du fait que ça va nous arriver à nous-mêmes. Donc, le mouvement Habitat, c'est un mouvement qui invite les gens à sortir du déni, à le faire ensemble, puis à se poser la question, comme je l'ai déjà dit, comment voulons-nous habiter notre vieillesse? Et une des activités qu'on a fait depuis octobre 2020, ce sont ces événements publics qui se sont passés jusqu'à maintenant seulement sur le web à cause de la situation qu'on connaît, mais qui vont bientôt devenir des versions hybrides. Donc, on va être capable d'impliquer des gens dans des vrais locaux, des vrais espaces, mais on va continuer à impliquer des gens de partout à travers la province.
Oui, qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer pour y assister.
Puis pour nous, ça a été... la pandémie a été une façon de faire grandir nos activités qui auraient pu être très régionales, très montréalo-centrées parce qu'on est basé à Montréal. Et comme on se retrouvait dans le web, eh bien là, tout à coup, il y avait des gens de partout à travers le Québec. Québec, Trois-Rivières, Gatineau, donc ça ouvrait toutes sortes de possibilités de discuter
discussion.
De ça. Donc les événements publics sont une des activités du mouvement Habitat. Habitat est au pluriel, je le dis pour les gens qui peut-être feront une recherche là, dans le web. Et il y a une autre activité qui est centrale, parce que nous, notre réponse là, à ce que vous évoquiez, c'est de dire, OK, c'est vrai qu'on ne fait pas grand-chose. C'est vrai que si on attend que les autres le fassent, on est mal barré parce que les choses bougent peu, puis ça prend de l'argent, puis ça prend du temps, puis ça prend beaucoup d'énergie. Cela dit, on s'est dit, les gens ont des réponses aux questions qu'on leur pose. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? On a consulté des citoyens, on a consulté des spécialistes, et notre solution, ça a été de se dire, et si on créait des groupes qui seraient menés par des aînés, nous on les appelle les interforums, parce qu'il y a plusieurs forums à travers le Québec, qui se regroupent dans un processus de co-création, donc en anglais le co-design, la création en groupe d'une solution, d'une piste de solution.
De plusieurs solutions.
Absolument. Et donc, nous, on a mis en place depuis le 23 février dernier ce qu'on appelle nos interforums. Et ces interforums-là sont pour le moment actifs dans 5 régions du Québec, Montréal, Capitale-Nationale, Lanaudière, Centre du Québec et Montérégie.
Parce que le problème est partout pareil.
Il est partout. Puis nous, on s'est dit, parce que je pense que le sentiment que vous avez évoqué de se dire « Hey, on est vraiment... on s'en va dans un mur, là. »
Tout à fait.
Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a le gouvernement qui a un point de vue, qui se fait influencer, qui est complètement débordé. En plus, la pandémie
en
a ajouté une couche, etc. Donc, nous, on s'est dit « Ben, on va renverser la pyramide, puis on va aller travailler dans les régions. Mmh. Et on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'écoute, on se rend compte qu'on a beaucoup plus accès et qu'on aura beaucoup plus accès aux gouvernements municipaux dans leur écoute, parce qu'eux, ils ont tout intérêt à ce que les citoyens se mobilisent et à ce que les citoyens créent des solutions pour
c'est
leur ville
facile.
Puis leur région.
C'est ben une approche plus simple.
En tout cas, l'échelle est plus
que
petite.
Que de voir ça de façon globale. C'est... Alors, allons plus petite échelle, justement.
Exact.
Pour construire, bâtir, parce que les solutions, bon, on parle d'habitat, mais on parle aussi de créer des lieux, aussi de convivialité pour que les gens puissent ne pas être isolés. Il y a plein de choses qui touchent le vieillissement.
Puis vous m'ouvrez la porte pour la façon, et c'est pour ça que je soulignais que le mot habitat est au pluriel, parce que nous, on l'a mis au pluriel parce qu'on considère que l'habitat, justement, c'est l'endroit où on habite. Mais comme vous l'évoquiez, c'est aussi les lieux... voisinage, quartier, ville, province, les relations.
Ouais.
Puis il y a un troisième aspect qui est très important pour nous, qui fait que souvent on n'agit pas, c'est notre propre relation à être vieillissant et notre propre relation au fait de vieillir. Comment nous, on se perçoit nous-mêmes, les clichés qu'on a acceptés, qu'on
c'est
a gobés, ou dont on est capable de se sortir, qui font qu'on peut agir. Et nous, c'est le parti qu'on prend que... Quand on se rend compte qu'on peut être agissant devant notre vieillissement puis sortir du déni, ben on peut faire quelque chose puis on peut le faire ensemble.
Tout à fait. En tout cas, c'est vraiment... Écoutez, il y a des défis énormes qui nous attendent. Alors vraiment, vous tombez pile poil parce que là, il faut vraiment que ça débloque. Il faut avoir des solutions. On est tous concernés. Il n'y a pas d'âge parce que tôt ou tard, nous allons être âgés aussi.
Oui.
Et avec le temps que ça prend pour bâtir des projets... trouver des solutions et les mettre en place.
Il faut commencer maintenant.
Il faut commencer maintenant, puis on est déjà, je pense, même très tard dans notre cheminement,
oui, oui.
Mais il faut commencer à quelque part. Et franchement, bravo. Et puis, bon, le site Internet, c'est important, vous vouliez en parler?
Oui, bien, c'est mouvementhabitat.com. Puis toutes les informations sont là sur les deux activités que j'ai évoquées. Puis l'activité qui s'en vient le 1er octobre prochain, qui va marquer la Journée internationale des aînés. On attend les gens dans la rue pour marcher et dire qu'on peut agir ensemble devant les réalités du vieillissement.
Merci, ça fait du bien de vous entendre et puis on vous entendrait comme ça pendant des heures. Alors merci François Grisé,
merci
ça a
à
été
vous.
Un plaisir.
Merci.
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
I lost a friend like keys in a sofa. Like a wallet in the backseat, like ice in the summer heat. I lost a friend, like sleep on a red eye, like money on a bad bed, like time worrying about every bad thing that hasn't happened yet. I know I'll be alright, but I'm not tonight. I'll be lying awake, counting all the mistakes I've made, replaying fights. I know I'll be alright, but I'm not tonight. I lost a friend, I lost a friend, I lost my mind. And nobody believes me, saying no that he don't need me. Cause he made a little too much money to be 20 and sad. And I'll be fine without him, but all I do is write about him. How the hell did I lose a friend I never had? Never had. I'm on the mend, like I'm wearing a neck brace, like I'm sleeping in my own place, like I'm pulling all the stitches out of my own face. I'm on the mend, like I'm icing a new sprain, like I'm walking on a new cane, like it's been a couple days since I slipped and said something sorta like your name. I know I'll be alright, but I'm not tonight. I'll be lying awake, counting all the mistakes I've made, replaying fights. I know I'll be alright, but I'm not tonight. I'm on the mend, but I lost a friend, I lost my mind. And nobody believes me, say I know that he don't need me. Cause he made a little too much money to be 20 and sad. And I'll be fine without him, but all I do is write.
was black and white, but life is different. Just try to listen to me now. I know I'll be alright, but I'm not tonight. I lost a friend, I lost a friend, I lost my mind. And nobody believes me, say I know that he don't need me. Cause he made a little too much money to be 20 and sad. And I'll be fine without him, but all I do is write about him. How the hell did I lose a friend I never had? Never had.
La pièce « I Lost a Friend » de Finneas O'Connell, et oui, connu sous le nom de Finneas, tout simplement, qui est un auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, acteur américain, né le 30 juillet 1997 à Los Angeles. Il rencontre le succès pour sa collaboration avec sa sœur cadette, nulle autre que Billie Eilish, et oui, pour laquelle il est producteur et avec qui il co-compose ses chansons. Il a remporté à ce titre 5 Grammy Awards, s'attribuant aussi celui du meilleur producteur. Alors, il mène une carrière solo aussi comme chanteur, mais comme acteur également. Et voilà, et puis c'est ça. Et ben oui, La perte de l'amitié, c'est le propos de Camille Le Récit, une œuvre inusitée conçue à la base pour un public non-voyant, mais qui permet aux personnes voyantes ou semi-voyantes de vivre une expérience particulière.
I danced with no idea who, with people I didn't know, who didn't talk. It felt good. I catch my breath. Rest my head in my hands. I wonder if you ever think of me. You're not here. But I feel like you are.
Camille, the story.
Bon, voilà. C'est la version anglaise, en fait, de Camille Le Récit, parce que la version anglaise va être présentée au Centre Siegel jusqu'au 3 juillet. Bonjour, Audrey-Anne Bouchard.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui. Alors, on avait notre chanson « I lost a friend ». Ben, c'était mon lien, j'ai un peu raté, là, mais c'était mon lien avec la pièce Camille le Récit, effectivement, qui parle d'une perte d'amitié. Alors, auteur, conceptrice du spectacle, mais en fait, c'est quand même le fruit d'une belle collaboration. Vous êtes 6 comédiens pour 6 spectateurs. Alors là, vous allez expliquer au public, aux auditeurs, qu'est-ce que c'est que ce spectacle?
Absolument. Donc, Camille, le récit, c'est un spectacle assez parti de l'idée de vouloir communiquer la danse et le théâtre au-delà de la relation visuelle entre le public et les interprètes sur la scène. Alors, spécifiquement pour pouvoir faire un spectacle entièrement accessible pour des personnes non-voyantes. Et on s'est dit la meilleure manière de communiquer le décor, de communiquer les costumes, ça serait d'inviter le spectateur à prendre place sur la scène, au milieu de l'action. Donc, on invite 6 spectateurs à la fois qui soit sont non-voyants ou sont invités à porter un bandeau sur leurs yeux. Et on les guide sur la scène. On les invite à s'asseoir sur une chaise qui a été conçue spécialement pour le spectacle. Donc, il y a des petites surprises qui vont sortir de la chaise aussi. Et les comédiens qui sont les interprètes, qui sont des acteurs ou des danseurs ou les deux, vont évoluer tout autour des spectateurs, donc de tous les côtés pendant le spectacle. Alors, il y aura des scènes qui vont amener les spectateurs dans différents lieux. Et c'est une expérience qui est multisensorielle. Donc, quand je dis on amène les spectateurs dans différents lieux, bien sûr, eux, ils restent assis sur la chaise, mais on va créer des ambiances de, par exemple, on va être dans
des univers, ouais.
Des univers, on va être au restaurant, on va être... Donc, on va transformer comme ça l'environnement à l'aide, entre autres, du son, mais aussi des accessoires. On utilise les accessoires pour le son qu'ils font aussi, leur texture, et on va jouer avec des odeurs, avec un peu des sensations physiques aussi.
Oui.
Il y a des interactions avec des objets.
C'est ça, c'est immersif, multisensoriel. Alors, on est appelé nous-mêmes à toucher des objets. Effectivement, on sent des choses. On se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai bien senti? Bon, il me semble que ça sent bon, ça sent la cuisine. Bien, c'est pas étonnant, on est dans un restaurant. Savez-vous quoi? J'avais l'impression, parce que là, bon, je suis très contente de vous retrouver. Je tenais vraiment à vous inviter parce que j'ai tenté l'expérience récemment, dans la version française. Et puis, vraiment, j'avais l'impression à la fois, bon, c'est comme un peu comme si on lisait un roman et qu'on imaginait les lieux, les décors, l'environnement. On se fait une image des personnages, qu'est-ce qu'ils ont l'air. Et puis, c'est vraiment très particulier. Effectivement, c'est une expérience vraiment inusitée et j'en voudrais d'autres comme ça, je vous assure. Vraiment, c'est quelle belle expérience. C'est vraiment un rendez-vous là, au-delà du visuel. Est-ce que les gens réagissent tous à peu près de la même façon?
Bien, en général, les gens aiment bien. C'est sûr que c'est quand même peut-être pas pour tout le monde parce que ça demande de se prêter au jeu. Puis
de s'abandonner.
De s'abandonner, absolument. C'est vraiment le bon mot. Donc, surtout pour les personnes non-voyantes, elles sont beaucoup plus à l'aise rapidement parce que, bon, elles sont habituées de ne pas utiliser leurs yeux. Donc, pour elles, c'est souvent, elles nous disent même des fois, on a envie de ne pas sortir de ce monde-là où tout est un peu adapté pour nous. Donc, c'est super. Les personnes voyantes, ben, il y en a pour qui ça va prendre un peu plus de temps pour se laisser aller. Des fois, il y a des émotions quand même assez intenses qui vont surgir. Je pense que quand on fait fi du sens de la vue, puis on prend le temps de laisser nos autres sens s'ouvrir, ça nous permet de revivre des fois des souvenirs, des choses, de déclencher des émotions aussi, de plus s'abandonner. Donc,
vous avez tout à fait raison, parce que ça m'est arrivé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un moment là, dans la pièce où on ressent une émotion particulière. Effectivement, il y a des moments, je pense, vous nous faites sentir juste la sensation de la pluie sur un parapluie.
Mm-hmm.
Vous nous mettez, quelqu'un se présente devant nous, on sent qu'il y a un objet, on veut nous tendre un objet. Finalement, on réalise que c'est un parapluie. C'est le manche en bois d'un parapluie. C'est très particulier. Alors, vraiment, et puis, c'est ça, on sent... de l'air autour de nous, comme on le disait, on sent des odeurs quand vous êtes au restaurant. Mais en fait, qu'est-ce que ça demande? Là, c'est très particulier parce que j'ai réalisé que nous, on est dans notre univers. Mais vous, là, vous êtes dans un univers complètement différent. D'abord, nous, on est dans le noir total et vous êtes dans la lumière totale.
Oui, tout à fait. Donc, nous, les interprètes de Camille sont tous voyants. Moi, je suis semi-voyante, mais j'ai fait la mise en scène. Donc, je fais pas partie de la distribution. Donc, tous les interprètes, eux, ils voient ce qui leur permet aussi d'assurer la sécurité de tout le monde sur la scène, puis de maintenir la distanciation, parce que c'est un spectacle aussi qui respecte encore les mesures sanitaires.
Oui, c'est vrai. Oui.
Liées à la COVID. Et c'est vraiment, tout est une chorégraphie et un enchaînement d'actions. Donc, les interprètes, ce sont vraiment comme presque des samouraïs qui sont capables d'être très silencieux parce que dès qu'on entend un petit son on pense que ça fait partie de l'œuvre. Tu sais, donc, on n'utilise pas nos yeux, tous les sons prennent un sens très important, les odeurs, comme vous l'avez dit. Donc, c'est vraiment, on est dans la précision au quart de tour. Mmh. C'est vraiment une chorégraphie.
C'est ça, les sons au restaurant, là, ça devient, avec les verres qui s'entrechoquent, les gens, on sent que l'alcool a fait son effet. Alors là, c'est sûr que là, on est aussi interpellé par les sons énormément.
Absolument. Puis nous, en fait, tu sais, l'histoire de Camille, qui est l'histoire du personnage de Pierre, dont il doit apprendre à accepter le départ de son ami Camille, puis de créer des liens avec de nouvelles personnes. C'est vraiment, l'histoire est apparue en dernier dans notre processus de création, parce qu'au départ, on avait envie de créer des ambiances, puis de faire vivre des émotions, des sensations. Donc, on s'est vraiment concentré sur créer des scènes qui nous permettaient de, par exemple, comment on peut créer une chorégraphie sonore avec de la vaisselle dans un restaurant. C'est ça. Comment on peut en bercer un spectateur, mais sans le toucher, en gardant la distanciation. Donc, on avait des envies de rencontrer les gens puis de communiquer des états. Puis après ça, on a mis tous ces tableaux-là ensemble puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que tout ça raconte comme histoire? Ouais. Puis on s'est rendu compte que, comme nous, on demandait aux spectateurs dans toutes ces situations-là de nous faire confiance, ben que l'histoire, ça allait être un personnage qui doit apprendre à faire confiance à de nouvelles personnes, puis pour qui c'est difficile. Donc
une histoire fort simple, au fond, mais c'est, tout est autour est très complexe, mais nous, on le sait pas. Bon, et d'ailleurs, cette fois-là, quand j'y suis allée, vous avez fait une captation du spectacle, justement, parce que j'imagine que ça vous donne aussi des idées, ou enfin, ça vous donne un peu des indications aussi par rapport à vos déplacements. J'imagine que c'est très instructif pour vous aussi.
Absolument. Ouais. Si on a besoin un jour on a été très chanceux d'avoir cette magnifique... Ben moi, comme productrice et maîtresse en scène, j'ai été très chanceuse d'avoir... de garder ma distribution extraordinaire depuis, même malgré la pandémie, mais si advenant qu'on veut qu'on continue à faire le spectacle et qu'il faut remplacer des interprètes, on aura une trace de qui fait quoi, parce que c'est vraiment un casse-tête.
Ouais. On espère que ça va durer le plus longtemps possible, parce qu'évidemment, vous êtes 6 comédiens, donc vous vous occupez individuellement, enfin, aussi de chaque spectateur, donc vous ne pouvez pas vous occuper de 20 spectateurs en même temps, forcément. Alors, ce qui fait qu'il faudrait être aussi nombreux... autant de comédiens que de spectateurs, forcément. Alors, on comprend, mais en tout cas, chose certaine, là, vous jouez encore la version, évidemment, assez complète, malheureusement, c'est en anglais, jusqu'au 3 juillet au Centre Seagull. J'espère que vous aurez d'autres dates de diffusion. Alors, c'est à souhaiter, puis que ça durera longtemps, puis que vous aurez d'autres projets du genre, c'est extraordinaire.
Ben oui, puis en fait, je peux en profiter pour dire qu'on a libéré quelques dernières places qui restaient pour les spectacles en anglais, hier. Donc, on gardait comme quelques places pour justement là, des diffuseurs ou des gens qui nous permettraient de reprendre le spectacle, puis on les a libérés pour le grand public. Donc, si les gens sont intéressés, j'ai le numéro de téléphone.
Oui, ben c'est le Centre Seagull.
Oui.
OK, parfait. On ira voir sur le site. Je vous quitte et je vous souhaite vraiment bon spectacle et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci Audrey-Anne Bouchard. Au revoir.
Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder.
Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Thunder, 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 thunder.
thunder. Lightning and the thunder.
Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.
Thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder.
Et c'était Thunder, Imagine Dragons, un groupe de pop-rock américain originaire de Las Vegas, dans le Nevada. Imagine Dragons, formé en 2008, qui met en vedette le chanteur Dan Reynolds. Le groupe compte au total 5 albums. Ils étaient de passage ce printemps au Centre Vidéotron, à Québec. 25 000 spectateurs ont été réunis pour l'occasion. Alors, le groupe qui poursuit sa tournée à travers le monde, là, ils étaient en Pologne hier soir. Demain, ils seront en Suède. Et samedi, ils seront en Belgique. Et puis, par la suite, Berlin, Madrid et Lisbonne la semaine prochaine. Alors, beaucoup d'électricité dans l'air après avoir entendu Thunder. Et on poursuit justement avec la visite de la Cité de l'énergie. Et pour nous faire découvrir les lieux, j'accueille Sandy Le Tendre, directrice générale de la Cité de l'énergie. Bonjour!
Bonjour!
Bon, alors voilà, c'était une belle introduction quand même. Alors oui, parce que oui, parlons-en de cette Cité d'énergie que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a à peu près 2 ans, pendant la pandémie, à vrai dire. C'est ça, c'est vraiment, ça m'a... j'ai trouvé ma visite fort agréable, je dois vous le dire. C'est vraiment,
oui, ben oui.
C'est vraiment un complexe muséal unique au Canada, à Trois-Rivières. Alors vraiment, c'est toute une expérience immersive, divertissante, éducative. On apprend plein de choses sur l'histoire. Alors je vous laisse quand même nous expliquer un peu ce que l'on retrouve sur les lieux.
Mais effectivement, la Cité de l'énergie à Shawinigan, sur l'île Melville, c'est vraiment un lieu assez unique, comme vous le dites. C'est un musée qu'on dit immersif, donc les visiteurs sont vraiment plongés là dans toutes sortes d'expériences interactives où ils vont découvrir là l'histoire de Shawinigan et de la région, surtout au niveau du développement là industriel et des secteurs hydroélectriques notamment. Donc, on a une exposition là qui s'intitule « Planète énergie » qui, elle, fait vraiment découvrir aux visiteurs toutes les facettes de l'énergie, finalement. Il y a un spectacle multimédia immersif aussi et sensoriel. Et puis, l'exposition avec plusieurs interactifs, donc des plateformes numériques, des stations de démonstration, d'expérimentation aussi de l'énergie sous toutes ses formes. On apprend vraiment à connaître les différentes sources d'énergie, leurs modes de production et leurs impacts aussi hein, sur de la consommation mm-hmm. d'énergie sur
bien
la société humaine. Oui, et puis on a aussi une attraction qui est unique là, au Canada, donc notre tour d'observation de 115 mètres qui est construite à même un ancien pylône là, de transport et d'hydroélectricité qui donne une vue là, assez extraordinaire sur la région, puis entre autres justement sur le barrage hydroélectrique et les centrales hydroélectriques.
C'est ça. Ça, c'est bien parce que c'est une façon de voir ça autrement, parce que vraiment, quand on se promène en voiture, on ne peut pas avoir cette vue prenante sur les lieux.
Exactement, on peut pas voir l'ampleur complète de tout ça.
Vrai.
Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. On a aussi des croisières et des tours de ville qui sont animés, qui permettent vraiment de connaître l'histoire du développement de Shawinigan et aussi du développement des industries, qui est assez fascinant.
Ah ça, c'est très intéressant. L'aspect historique, là, je pense que c'est vraiment méconnu. Puis on apprend plein de choses, non seulement sur Shawinigan, mais enfin tout évidemment, l'histoire par rapport aux industries, enfin les gens qui sont venus s'établir. Les compagnies, enfin, c'est fascinant, oui, effectivement.
Effectivement, Shawinigan était, à partir des années 1900, puis même un peu avant ça, un des berceaux très, très importants là, du développement industriel au Canada. On compte, par exemple, la première aluminerie en Amérique du Nord qui était ici à Shawinigan. Donc, quand on découvre l'histoire industrielle de Shawinigan, on découvre un peu aussi l'histoire du développement industriel au Québec et au Canada. Donc, mm-hmm. c'est vraiment très, très fascinant à
c'est
ce niveau-là.
C'est ça, c'est le patrimoine industriel vraiment... Tout à fait, du Québec et du Canada aussi.
Oui, et on apprend entre autres que Shawinigan a été développé par les architectes qui ont développé New York, et puis le parc Saint-Maurice, entre autres, qui était développé par les mêmes architectes, par la même firme qui a fait Central Park à New York. Donc, c'est vraiment...
C'est d'ailleurs,
pas quelque chose que les gens connaissent.
Non, c'est ça. D'ailleurs, je lisais que Shawinigan a été bâti sur le modèle de New York. C'est intéressant quand même.
Exactement. Oui, exactement.
C'est surprenant.
Centre-ville, on a la 5e rue, la 4e rue. Oui. Donc, c'est vraiment le modèle, un modèle semblable à New York.
C'est ça. Et bien donc, et puis, bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller là en famille. Tout le monde va y trouver son compte. Vraiment, autant les adultes que les enfants, chacun va avoir ses coups de cœur. Mais c'est ça. Puis, vous nous amenez aussi. C'est un parcours qui est quand même long, là. On visite pas ça en une heure, là.
Ben effectivement, on a des forfaits de visite un peu pour tous les goûts et pour tous les horaires, dans le sens que si les gens veulent passer vraiment une journée complète, on a de quoi les occuper, et même en soirée, parce qu'on a l'amphithéâtre québécois, qui est un amphithéâtre tournant face à la rivière Saint-Maurice, face à la forêt, qui est chauffée aussi. Donc, on présente aussi une programmation de spectacles en soirée là à partir du 5 juillet et ça jusqu'au 20 août. Et puis, pendant la journée, ben c'est ça, il y a les activités que je vous ai mentionnées, aussi la visite du secteur hydroélectrique. Donc, les gens peuvent prendre le forfait complet s'ils le souhaitent et aller visiter deux centrales hydroélectriques, dont une qui est encore en activité, qui est une centrale centenaire à l'architecture très impressionnante, et la centrale NAC, elle, qui est un grand hall d'exposition avec une des plus importantes collections là, d'équipements industriels pour la production d'hydroélectricité. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et puis, ceux qui souhaitent peut-être passer un peu moins de temps peuvent opter pour l'option qu'on dit la demi-visite, donc visiter là, le centre de sciences ou le secteur hydroélectrique uniquement. Puis après ça, ben, les croisières, les tours de ville. Donc, comme je dis, il y a de quoi s'occuper une journée et même plus. Là.
Et puis, ceux qui s'intéressent à la politique, ben, il y a le musée du premier ministre Jean Chrétien quand même. Alors, c'est pas rien. Il y a plein aussi de... On peut s'amuser à voir les fameux cadeaux protocolaires que l'ancien premier ministre recevait. Et d'ailleurs, c'est sa femme Aline Chrétien qui gérait tout ça. Alors, elle a tout recueilli, ces objets-là qui sont en démonstration. C'est très drôle. Et parce qu'évidemment, on voit aussi ce que les pays donnaient. Enfin, des fois, c'est quand même amusant. Des fois, on se dit, mon Dieu, on n'aurait jamais pensé, donner ça en cadeau à un premier ministre. Mais enfin, bon, c'est très personnel.
Il y a toutes sortes d'objets, effectivement, qui ont toute une histoire propre. On a même des cadeaux de Nelson Mandela, donc vraiment des personnalités là, très, très connues. Puis justement, le musée est présentement en rénovation. Ça va s'achever bientôt, là, d'ici la mi-juillet, parce qu'il y a toute une nouvelle section qui a été construite et ajoutée pour la Première Dame. Justement, vous avez mentionné Mme Aline Chrétien. Donc, il va y avoir une exposition de photos et aussi de tenues qu'elle a portées dans des rencontres très marquantes là, avec des représentants politiques de différents pays. Donc, ça aussi, c'est en train de s'ajouter. Donc, ça bouge. Là. Il y a beaucoup de choses
à voir. En
tout
cas, on va découvrir plein de choses en allant à la Cité de l'énergie, en allant à Shawinigan, d'ailleurs, une ville des fois qu'on évite. Ben, ça veut dire qu'on évite, on passe à côté, mais sans s'y arrêter nécessairement. On s'en va dans le merveilleux parc de la Mauricie. Alors, et puis, on ne s'arrête pas nécessairement à Shawinigan, mais ce sera l'occasion de le faire. En tout cas, merci bien. Et puis, effectivement, je vous souhaite un bon été. On rappelle qu'il y a un spectacle, Crazy Country, qui est aussi présenté à la Cité de l'énergie. Alors, passez un bel été et puis on ira vous retrouver de nouveau. Ça a été vraiment une belle visite. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir. C'est déjà le temps de se quitter. Vous savez que demain, nous allons faire relâche. Hein? C'est la fête du Canada, 1er juillet. Alors, puis comme je le disais en début d'émission, c'est la fête nationale du déménagement demain. Mais enfin, j'en ai vu quand même pas mal de camions dans les rues. Il y en a qui ont aussi beaucoup de problèmes à se loger, à se reloger. Alors, on pense à eux. Chose certaine, on se retrouve lundi, 4 juillet. Au revoir, passez une bonne fin de semaine, un bon long congé.